ce matin. Amen. Amen. Ce matin, mon verset, je vous invite à tourner dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Et pendant que vous cherchez, je fais le rappel pour ceux qui ont reçu l'invitation, comme la réunion de membres du 17 mars, pensez à confirmer votre présence et à vous inscrire pour le 16 mars à la librairie ou en ligne pour la formation avec les BQ. Ésaïe 59, versets 1 à 2. C'est le verset ce matin. Et ce matin, je veux vous inviter avec moi, à travers le message, à découvrir ou à redécouvrir l'espoir lorsque nous nous connectons sincèrement et d'une manière authentique à Dieu. Ésaïe 59, versets 1 à 2. « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et laissez-moi vous proposer une image. Quand je méditais à mon message, on va faire marcher notre imagination ce matin. Et vous savez tous que c'est un puits où il y a de l'eau dedans, un puits. Imaginez que dans la vie, il y a des situations dans lesquelles on est et on se sent dans le fond du puits. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on est dans le fond du puits, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en sortir. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? On crie à l'aide. D'accord avec moi? On tend les mains, on essaye de sortir, on saute, on essaye de grimper, mais c'est impossible parce que c'est humide, on ne peut pas grimper les parois, rien à faire. C'est trop haut. Je ne peux pas sortir par moi-même. Et ces puits-là dans la vie, ce puits qu'on imagine ce matin, ce sont des situations dans lesquelles on a perdu espoir. C'est des situations dans lesquelles on est à bout de force. On peut nommer la maladie, l'anxiété, la peur, l'angoisse, la précarité, l'absence d'emploi, le désert spirituel dans lequel on vit, une dépendance nuisible quelconque. Tu sais, ces puits-là sont ces puits et ces situations qui nous enferment et qui nous isolent, et qui nous empêche de vivre pleinement une vie épanouissante. Si ces puits-là nous blessent l'âme, ces puits-là blessent nos cœurs, blessent nos vies. Ils aspirent notre vie, ils aspirent notre joie, aspirent notre avenir, notre espoir. Et ces puits-là, on peut tomber dedans involontairement. C'est vrai, on peut trébucher, tomber dans le puits. Ça arrive. Mais souvent, malheureusement, les puits, c'est nous qui les construisons. Et on s'enferme dedans par nous-mêmes. Et ces puits, quand on construit, sont souvent causés par le péché. Et ces péchés-là nous séparent et nous distancent de Dieu. On va voir ça un peu plus tard. Et ce matin, c'est de premièrement regarder que la puissance de Dieu, elle n'est pas limitée. Dans nos situations de vie, dans les puits dans lesquels on est, vous savez, Dieu ne fait jamais défaut. Dieu n'est jamais en défaut. Il n'est pas limité. Dieu veut et il peut nous sauver. Surtout, Dieu veut nous sauver. Il en a la puissance. Dieu en a la puissance. Dieu en a l'envie. Il n'est pas limité. Et on a tellement d'exemples dans la Bible. Comment la main de Dieu, elle est bel et bien là pour nous secourir et pour agir. Comment son oreille, elle est là, bien ouverte, pour entendre le cri des enfants qui expriment du plus profond de leur cœur ce besoin d'être secourus. Et la Bible, elle est remplie d'histoires, de témoignages de la main de Dieu qui sauve, qu'importe la situation, qu'importe la profondeur de la situation, qu'importe la grosseur de la situation. Regardez avec moi, lors du déluge, Dieu a pourvu pour une arche, pour sauver la famille Noé. Regardez Joseph, quand il était en prison, Dieu a pourvu pour qu'il ait l'intelligence et la capacité d'interpréter les rêves pour sortir de la prison. Le peuple d'Israël en esclavage avec Moïse en Égypte, Dieu a délivré avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu a ouvert la mer en deux pour son peuple. Il a fait tomber de la nourriture du ciel pour son peuple. Le prophète Élie vivait quelque chose d'intense. Le prophète Élie était en grande dépression à un moment donné dans sa vie. Il venait de vivre une victoire avec Dieu. Et là, il est pourchassé. Il est dans la peur. Il est dans le désespoir. Il est dans l'angoisse, l'anxiété. Il est dans une dépression terrible. à tel point qu'il demande la mort. Oui, il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui voulait mourir. Il a demandé à Dieu, viens me chercher, je ne suis plus capable. Et Dieu a utilisé des oiseaux pour le nourrir, lui a permis de dormir pendant 3 jours, amen, pour lui redonner des forces. Dieu l'a sorti de son puits, de là où ce qu'il était, pour ensuite l'envoyer ailleurs. Le roi David, dans sa détresse, dans ses fuites, Dieu est présent avec lui. La main de l'Éternel est présente avec lui pour prendre soin de lui et le renouveler. Un bien très connu, Daniel, dans la fosse au lion. La main de l'Éternel a fermé la gueule du lion pour protéger Daniel. Les amis de Daniel, Shédrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, Dieu, la main de Dieu les a protégés. Et quand on va dans le Nouveau Testament, les disciples dans la barque, quand c'était la tempête, ils ont eu peur de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a calmé la tempête. Dieu les a protégés à travers Jésus. Un lépreux qui est guéri. Et ça, je veux le lire avec vous, Marc 1, versets 40 à 42. Celui-là il est important, je veux qu'on le lise ensemble. Tout est important, mais celui-là, il m'est attiré mon attention. Marc 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui, en parlant de Jésus, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux savait que l'homme qu'il avait en face de lui avait la capacité de le sortir du puits dans lequel il était. Le lépreux savait que Jésus était capable et pouvait le sortir de son puits. Et regardez au verset 41, « Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Plus tard, quand Pierre marche sur l'eau, qu'il s'enfonce dans l'eau, Jésus lui tend la main et l'extirpe de l'eau pour le sortir de là où ce qu'il était. Et plus à large, quand on regarde l'humanité aujourd'hui, Dieu a envoyé Jésus comme sa main puissante pour nous sauver, pour nous secourir, pour nous guérir. Les paralytiques sont guéris, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Jésus est la main de Dieu qui s'est manifestée pour chacun de nous. Et ça, on le voit dans Luc 4, versets 17 à 21. Luc 4, versets 17 à 21. Et Jésus arrive au temple, il est là pour faire la lecture de l'Ancien Testament, et c'est là qu'on commence au verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, les grands rouleaux. Il le déroula, c'est pour ça qu'on dit qu'il le déroula, c'était un rouleau à l'époque. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Et ça c'est bon, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu accomplir cette parole. Jésus est venu comme la main de Dieu pour nous délivrer et nous sortir du plus grand puits dans lequel on est tous, la mort. Jésus est mort sur la croix pour nous afin de nous délivrer de la mort éternelle, pour nous offrir la vie éternelle. Dieu a tendu la main avec Jésus. Et quand on continue la Bible, Jésus est retourné au ciel. Il est parti. Mais est-ce que sa main peut toujours agir? Amen, bien sûr. Paul et Silas en prison. Hein? Ils louent le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Dieu les délivre, fait tomber les murs de la prison. On a Pierre et Jean qui, animés par le Saint-Esprit, guérissent un paralytique. Et on a nous, ses enfants, remplis de l'Esprit, utilisés par Dieu pour poursuivre la mission de Jésus. Toucher le cœur des gens, toucher, témoigner, emmener les gens à la repentance, emmener les gens à connaître qui est Jésus. Et la Bible elle-même, la parole de Dieu, est aussi la main de Dieu qui est tendue, qui nous est donnée pour nous permettre de nous rappeler tous ces témoignages qu'on vient de dire là, pour nous rappeler toutes ces histoires. que Dieu est bien présent et Dieu est bien actif pour tous, qu'importe la condition, qu'importe le statut social, qu'importe la nationalité, qu'importe l'enjeu. Dieu est capable aujourd'hui de nous sortir de nos situations. Amen. Est-ce que vous réalisez comment Dieu est encore capable aujourd'hui de te sortir de ta fournaise ardente, de te sortir de ta fosse aux lions, de ton lieu de captivité, de ta prison? Dieu est capable de te sortir de la mer agitée dans laquelle tu coules. Dieu est capable de calmer la tempête dans ta vie et te sortir de cette tempête, de sortir de la maladie, de la dépression, de l'anxiété. Qu'importe la situation, on l'a vu avec l'exemple biblique. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas Danny qui l'a inventé. C'est Dieu qui a agi pour son peuple parce que son peuple avait besoin de sa main pour être délivré, pour être sorti de là où ils étaient. Et qu'importe les situations, qu'importe la grosseur, la longueur, la profondeur, qu'importe la situation, Dieu peut nous sortir de celle-ci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sortir des situations et nous sauver. Amen. Son oreille est attentive. Que tu sois en captivité pendant 400 ans dans un désert, dans un autre pays, Dieu t'entend, va sortir avec son bras, va aider, va te sortir de cette situation. Ou bien que tu sois quelqu'un qui est dans la maladie depuis des années, Jésus vient te toucher, te guérir. C'est la Bible qui nous le dit. Psaume 34, versets 5 à 7. Psaume 34, psaume de David. J'ai cherché l'Éternel. Donc j'ai crié à l'Éternel. Pourquoi j'ai crié à l'Éternel? Parce que je sais que l'Éternel a une oreille qui est tendue vers moi pour m'entendre. J'ai cherché l'Éternel, j'ai crié à lui, j'ai soupiré après lui. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a sorti du puits dans lequel j'étais. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Êtes-vous rayonnant de joie ce matin? Amen. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Amen. 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 Et là, je m'emmène quelque chose, c'est tellement bon, c'est waouh, c'est vrai, le Seigneur peut faire ça dans ma vie, le Seigneur m'emmène à me sortir. Et là, je te dis, oui, mais, oh, oui, mais, il y a toujours un mais. Oh, qu'on l'aime pas ce mais, ce petit mot de trois lettres là, oh, qu'on l'aime pas ce mais. Quatre lettres, excusez. Ouais, mais c'est le moi. Merci, professeur de français. Il y a toujours un « mais » dans ces situations-là. Ésaïe 59, on revient à notre verset de base. Regardez au verset 2. « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Ça, c'est comme une claque derrière la tête. Dieu, il est capable d'intervenir dans nos situations. Dieu, il est prêt à nous secourir par sa main. C'est écrit, on le voit. Mais c'est le péché dans nos vies qui met une séparation entre Dieu et nous. Et c'est ce qui empêche Dieu d'intervenir dans nos situations. Et si vous tombez dans un puits, on reprend mon puits du début, si vous tombez dans un puits, puis là, hein, vous criez, puis il y a un ami qui vient vous sortir de là. Ah, il est gentil, il est fort. Il vient, il se met dans la boue, il s'allonge, il tend la main du plus loin qu'il peut. Puis vous pouvez l'attraper. Toi, tu peux attraper la main de cet ami-là. Puis lui, il va te la prendre, il va te tirer, il va te soulever. Il est assez fort pour ça, pour te sortir de là. Mais si on ne saisit pas la main, on va rester dans le fond du puits. Et des fois, on peut ne pas saisir la main parce qu'on a peur que la personne ne soit pas assez forte pour nous secourir. Des fois, on ne saisit pas la main parce qu'on ne veut pas que la personne nous sauve. On veut s'en sortir par nous-mêmes. Ou bien simplement, des fois, parce qu'on ne voit pas sa main. Parce qu'on crie la tête baissée, pas les yeux levés vers la main qui est tendue. Ou bien parce que des fois, on ne veut juste pas s'approcher de cette main-là qui est tendue vers nous. Et ça sera impossible de sortir. Et lorsque nous péchons, lorsque nous nous enlisons dans un péché, on met une barrière entre Dieu et nous. Il y a une séparation qui se fait. Et ce n'est pas que Dieu ne réagit pas. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne. C'est que nous mettons la distance. Bien important de comprendre ça. Quand Dieu tend la main, Dieu a déjà fait 100% de sa part vers nous. On a une responsabilité, là. À nous de faire notre bout de chemin pour saisir la main. On a la responsabilité de rétablir la connexion avec Dieu, de regarder à lui, et ça en reconnaissant notre péché, en s'humiliant et en demandant pardon. En demandant pardon à Dieu. Parce que frères et sœurs, je vais peut-être péter votre ballon là, ce matin, mais Dieu n'est pas responsable de notre péché. Dieu n'est pas responsable du fait que tu es tombé dans le puits. Dieu n'est pas responsable de la situation dans laquelle tu es. Dieu n'est pas responsable. C'est pas à lui de prendre la responsabilité de notre péché. C'est très important de comprendre ça. C'est à nous de reconnaître notre péché afin de changer de voie, de se repentir afin que la main de Dieu puisse agir dans nos vies. Et un commentaire dit, ce sont les péchés et la méchanceté qui sont présents dans nos vies, qui érigent un mur entre nous et Dieu. Ce mur nous empêche d'expérimenter la faveur, la protection, l'aide ou la joie du salut. Et vous savez, dans le contexte d'Ésaïe 59, comme on vient de le lire dans le passage qu'on a lu, Ésaïe 59, Dieu n'agit pas pour le peuple. Dieu peut agir pour le peuple, mais Dieu ne le fait pas. Parce que le peuple est dans le péché. Parce que le peuple est dans l'erreur. Et ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir. Hein, on a vu tous les exemples. C'est que le peuple doit s'humilier, se repentir, reconnaître leur condition, là où est-ce qu'ils sont. Il faut que les yeux du peuple sont voilés par le péché, mais il faut que le peuple reconnaisse l'état dans lequel il est, afin que Dieu puisse et ait la possibilité d'intervenir dans cette situation. Il y a un verset qui ne sera pas affiché, mais Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Le peuple, à ce moment-ci, s'enlise dans son péché, orgueilleusement s'enlise dans son péché. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux. Mais Dieu honore et fait grâce à celui qui dit « Je veux changer de voie, je te demande pardon, Seigneur. Je me repens, je m'humilie devant toi, je ne suis qu'un pécheur. Pardonne-moi, interviens dans ma situation, je ne peux que dépendre de toi, sors-moi de mon puits. » Et c'est ça que Dieu veut voir dans son peuple. Dieu n'intervient pas car il veut voir le cœur du peuple se repentir et se tourner vers lui. Et le commentaire continue et dit « L'Éternel est capable de sauver. » Ésaïe, le prophète, rappelle au peuple que l'Éternel Dieu peut la sauver malgré les circonstances difficiles. Dieu est assez puissant, sa main n'est pas trop courte et son amour est assez grand, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Aussi, le peuple d'Israël n'a qu'à faire appel à Dieu, donc se repentir, demander pardon, et il viendra à son secours. Parce que Dieu ne souhaite pas que le peuple, ni que nous, soyons dans cette situation, restions dans nos situations. Donc, que ce soit des situations tristes, déplaisantes, accablantes. Mais Dieu veut voir ses enfants réaliser leur état de cœur, réaliser leur péché et qu'ils fassent un 180. Parce que si nous voulons activer la main de Dieu dans nos vies, voilà ce qu'il faut faire. Le psaume 34 nous donne la recette. David, le roi David, nous donne la recette. Psaume 34, versets 14 à 19. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La recette est facile à suivre. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal pour effacer leur souvenir de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La recette n'est pas compliquée. On a juste à faire attention à nos paroles, à notre langue et à ne pas faire le mal. C'est simple. Mais ô combien compliqué dans notre monde à cause du péché. Reconnaître notre péché, s'humilier, se détourner du mal, se repentir et finalement faire le mal. Je sors de mes notes un peu. Là. Faire le mal, c'est quoi ? Faire le mal, c'est faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Faire le mal, c'est faire ce qui compte la volonté de Dieu. Donc à nous de reconnaître notre péché, de reconnaître ce qu'on fait dans nos vies, ce qui est dans nos vies, qui ne fait pas du bien à Dieu, qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut voir le cœur et il veut prendre plaisir dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui se repentent et qui reconnaissent leur péché. Et vous savez, on parle là de individuellement. Individuellement, on peut venir devant Dieu, individuellement, on peut venir dire à Dieu, je m'humilie, je te demande pardon. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est collectivement de venir devant Dieu et demander pardon. De façon collective, on peut venir se repentir. Et oui, l'Église, de façon collective, peut venir devant Dieu, se repentir, peut venir devant Dieu et garder l'humilité. C'est tellement important. Parce que l'Église ne veut pas tomber dans l'orgueil. Vous voyez, on vit une belle croissance dans l'Église et on ne veut pas s'enorgueillir. On veut voir la main de Dieu qui continue à agir dans notre Église. Mais pour ça, il faut qu'on reste humble en tant qu'assemblée, en tant qu'Église. Il est important de rester humble, de s'humilier collectivement. Et 2 Chroniques, versets 7 à 14, nous le dit dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. En d'autres mots, si mon peuple s'humilie, je vais tendre ma main vers lui pour le sortir de là où il est. » Et comme je viens de le dire, la repentance, c'est un changement de direction. C'est un 180 degrés. C'est vraiment aller à l'opposé de la direction dans laquelle on va. La repentance, c'est ouvrir nos yeux humblement face à ce qu'on fait, face à ce qu'on vit, face à la situation dans laquelle on est, et face surtout à la parole de Dieu et à ce que dit la parole de Dieu, et de réaliser, hey, mais je ne suis pas dans la bonne direction. Puis, une repentance, ce n'est pas un petit chemin qui bifurque sur la droite, là. Okay? Ce n'est pas un petit side. La repentance, c'est vraiment un chemin en arrière, c'est retourner vers le Père. C'est retourner en arrière, c'est s'éloigner du péché pour retourner vers Dieu. C'est renoncer de continuer à avancer dans la direction qu'on prend consciemment pour aller vers Dieu. Amen. Et la plus belle histoire dans la Bible d'exemple de repentance et de 180 degrés, c'est Jonas. On a là un homme que Dieu lui a donné une mission d'aller à tel endroit pour emmener une parole, pour faire sa volonté du Seigneur. Puis Jonas, lui, il décide que ça ne lui tente pas. Il dit non, moi je n'y vais pas, eux autres, ils se débrouillent, moi je vais ailleurs. Et Jonas, il part dans la direction opposée. Jonas devait aller à Ninive, puis il s'en va le plus loin possible. Et il s'en va dans la direction opposée. À date, Jonas, il n'a pas péché, comme on pourrait le comprendre dans notre situation. Mais en fait, Jonas, il est allé à l'opposé de la volonté de Dieu. Donc, il est dans le péché. Vous me saisissez? Et en plus de ça, Jonas va s'enorgueillir. Il dit, non, moi, je ne veux pas y aller. Il se débrouille, moi, j'ai autre chose à faire. Et il rentre sur un bateau, et là, par sa désobéissance à Dieu, il va mettre du monde en danger. Des fois, quand nous, on est dans une situation qui est contre la volonté de Dieu, On ne pense pas aux gens qui sont autour de nous, qui sont satellites autour de nous, qu'on peut mettre en danger par nos comportements, par nos paroles, par nos façons d'agir. Et Jonas, lui, dans ce bateau, puis c'est la tempête, puis des gens qui ne croient pas en Dieu lui disent « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Puis Jonas, il dit, il y a quand même le culot de dire « Je fuis la volonté de Dieu ». Il y a quand même le culot de le dire. Hein. Ce qui me frappe, c'est que ces gens-là qui ne sont pas croyants disent « Mais tu apportes le malheur sur nous. S'il te plaît, fais ce que ton Dieu te demande. Là. T'es en train de nous mettre dans le pétrin. » Et Jonas, jeté par-dessus bord, est avalé par un gros poisson. Et là, ça va prendre 3 jours avec l'odeur du ventre d'un gros poisson pour qu'il puisse rentrer en dedans de lui et réaliser ce qu'il a fait. Réaliser l'orgueil, réaliser la désobéissance, réaliser le fait qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Réaliser que le puits ou le ventre du poisson dans lequel il est n'est pas de la faute de Dieu. C'est la suite de conséquences, de choix, les conséquences des choix qu'il a fait de désobéir à Dieu qui l'ont amené là, qui l'ont fait tomber dans ce puits-là. Et c'est là qu'après 3 jours, Jonas va s'humilier, demander pardon à Dieu. Et c'est là que la main de Dieu va le délivrer de la situation dans laquelle il est. Il va être recraché par le poisson, exactement là où ce qu'il ne voulait pas aller, et il va aller faire ce que Dieu lui demande. Mais c'est un exemple de repentance dans la Bible, très 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 parlant, très parlant. Des fois, on veut aller dans une direction parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas, ou bien parce qu'on ne le sait pas, et là, il nous arrive des choses, on se demande, mais pourquoi ça m'arrive ? A-t-on pris le temps de regarder si on était dans la volonté de Dieu ? Et je dis ça aussi bien personnellement que collectivement, que ce soit pour les ministères de l'Église, que ce soit pour l'Église au complet. Est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu ? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Sinon, ça prend de demander pardon à Dieu, de s'humilier. Et Dieu n'était pas fâché contre Jonas. Dieu ne sera pas fâché. Dieu ne sera pas en colère. Mais par amour, Dieu va nous dire, je te remets sur le chemin que je veux que tu ailles. Parce que tu t'es humilié. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, comme on l'a lu tantôt, on l'a dit tantôt, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la main de Dieu, elle n'est pas trop courte pour nous sauver, frères et sœurs. Elle n'est pas trop courte pour nous sortir de nos puits dans lesquels on est. Que ce soit la dépression, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit la dépendance, que ce soit la peur, que ce soit l'angoisse, que ce soit, nommez ce que vous voulez, les choses qui sont contre ce que Dieu veut pour nous. Mais ça implique un engagement de notre part. Il est là, le mais, l'engagement de notre part. On doit reconnaître notre état de pécheur et chercher à se détourner de cet état-là pour se mettre sur la voie de Dieu et que Dieu va nous, on va se reconnecter avec Dieu. Et là, on peut lever les yeux et voir la main tendue de Dieu, la saisir et le Seigneur va nous sortir de notre puits. Et c'est ce qu'on va faire ce matin avec la communion, frères et sœurs. On va venir s'humilier devant Dieu. On va venir demander pardon à Dieu et se rappeler que cette grâce-là qu'il nous fait, on ne la mérite pas. Mais par amour, il nous la donne parce qu'on se repent. Et je vais inviter l'équipe de louanges ce matin. En prenant le repas du Seigneur ce matin, on se rappelle notre état de pécheur et on se rappelle surtout que nous avons à venir devant Dieu pour demander pardon. Jacques 4, versets 7 à 10, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est ce qu'on va faire ce matin, on va s'approcher de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, de votre péché. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Soyez attristés par ce que l'on vit. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Et c'est impératif, frères et sœurs. Je continue à le dire. Il est impératif que nous reconnaissions notre état ce matin. L'état de nos cœurs. Qu'on ne joue pas un jeu, qu'on ne joue pas une game ce matin. Mais de reconnaître l'état pécheur de nos âmes, de nos cœurs, de nos vies. De reconnaître les situations dans lesquelles on est. De saisir notre responsabilité de changer de voie. De nous repentir. Et faire un acte de foi en priant, en élevant la voix, puis en gardant confiance à Dieu. Parce que je le répète, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sortir de la situation d'où tu es. Que son oreille est bien disposée à entendre ton cri. Mais il est disposé à entendre le cri d'un cœur repentant, d'un cœur qui s'humilie et qui s'abandonne à lui. Et que nous soyons injustement dans une situation difficile, qu'on soit injustement tombé dans ce puits, un peu comme Paul et Silas dans la prison, injustement enfermés. Prions, louons et faisons confiance à Dieu. Approchons-nous de Dieu et saisissons sa main pour nous sortir de la captivité. Et que nous soyons enfermés dans une situation due à un mauvais choix, due à un péché, une mauvaise attitude. Personne ne vous jugera. Mais humilions-nous et changeons nos cœurs. Demandons pardon à Dieu et saisissons sa main tendue pour nous sortir de la captivité du péché. C'est tellement important de prier, frères et sœurs, de prier pour nos âmes, de prier pour nos vies, de prier pour nos situations dans lesquelles on est, de ceux qui sont autour de nous. Il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas à nous de juger. Et un cœur qui est repentant, un cœur qui s'humilie, est tellement magnifique. C'est tellement magnifique de voir quelqu'un reconnaître la situation, changer de direction, s'abandonner à Dieu, et surtout le voir être sorti du puits, comment sa vie est transformée après ça. C'est tellement, tellement important. On a besoin de découvrir ou de redécouvrir l'espoir qui est en Jésus, que Jésus est venu offrir au monde, cette vie éternelle. Et cet espoir-là, on l'acquérera lorsqu'on s'abandonnera à lui, dans l'humilité, qu'on s'approchera de lui avec un cœur repentant. Et ce matin, je veux qu'on garde cette attitude, on va se lever ensemble.